Radio Campus. Radio Campus. Campus.
88.3.
Radio Campus. Radio Campus.
Très à la mode en ce moment, chic, de bon goût.
Radio Campus. Radio Campus.
Avez-vous autre chose à dire, monsieur l'écrivain tout nu, ou pouvons-nous continuer notre route?
Radio Campus. Radio Campus.
Yeah, give me some of that hardcore female aggression shit.
En 1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État où je déclenche la tuerie au palais de la
Syrie. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Bonsoir à toutes et tous et merci de nous rejoindre sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours pour une nouvelle édition d'Un bâton rompu, magazine d'information. C'est tous les mardis de 19 à 20h. Ce mardi, j'accueille les amis du Monde Diplo pour décrypter l'actualité du mois de mai du Diplo.
Bâton rompu avec Hassan Kerim.
Alain, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes.
Oui, bonsoir. Ton choix pour ce soir, c'est un article qui parle d'un homme d'affaires nigérian, Aliko Dangote, dont les affaires se foutent éperdument, ou quelque peu, de considérations sociales et environnementales. Henri a choisi l'article qui parle de l'élection présidentielle en Turquie. C'est un des événements politiques, pour moi, mondiaux les plus importants cette année. Henri, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Il s'agit de l'élection présidentielle. Hein.
C'est dimanche prochain.
Dimanche prochain.
Et c'est un événement important parce que la Turquie est un pays important.
Très important. Avant de donner la parole deuxième Henri, pour le sommaire de ce diplôme, je vais saluer Victor, mon comparse du mardi. Salut Victor.
Salut Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Voilà, avec les amis du bon diplôme, tu choisis toujours un article. Aujourd'hui, c'est sur des certificats médicaux de complaisance, des choses comme ça.
Oui, enfin c'est plus sur les relations entre l'ordre des médecins et les employeurs, mais oui, ça va parler de ça.
Très bel article. Henri, bonsoir.
Bonsoir.
Pour le sommaire de ce diplôme du mois de mai.
Eh oui, au mois de mai, le diplôme est également riche.
Et il fait ce qui lui
vous
plaît.
Vous ne serez pas surpris.
Il fait ce qui lui plaît.
Il fait ce qui lui plaît. Et ma foi, c'est très bien ce qu'il fait, ce qu'il relate dans ses différents articles. Il y a là, à la fois des articles qui concernent nos affaires franco-françaises et puis les affaires ou tout ce qui a peu animé le monde. Oui, on ira en Turquie, on ira au Nigeria. Dans ce diplo, on peut que conseiller d'aller aussi en Amérique du Sud. Il y a un article extrêmement intéressant. On en a pas mal entendu parler parce que donc le président Lula est allé rendre visite à Xi Jinping.
En Chine.
Voilà, il s'est dit, tiens, c'est peut-être l'occasion d'échanger nos maillots. et d'aller voir ce qui s'y passe, puisque Américains et Européens sont bien occupés avec l'Ukraine. Ça rejoint un peu ce qu'on avait dit il y a un mois ou deux lors de l'émission sur l'attitude des pays d'Amérique du Sud vis-à-vis justement de ce conflit russo-ukrainien. Le voyage de Lula démontre très bien qu'à Pékin, donc le 14 avril dernier, démontre très bien que l'Amérique latine essaie de se délester au moins un peu de l'influence de Washington et puis également des pays occidentaux. Alors, le phénomène n'est pas né de ces dernières années. On peut même le fixer à partir des débuts des années 2000. Mais effectivement, l'Amérique latine, que ce soit le Brésil ou d'autres pays d'Amérique latine, essaie un peu de se démarquer. L'Argentine a quand même subi de son côté beaucoup d'austérité imposée par la fameuse Troïka et notamment donc en particulier le Fonds monétaire international, derrière qui il y a les USA. Donc c'est pour ça que quelquefois les États-Unis n'ont pas toujours une très bonne presse en Amérique du Sud.
Il y a aussi cette tradition américaine de soutenir des dictatures en Amérique latine. Et il y a eu beaucoup de morts liées au soutien des États-Unis dans l'histoire.
Oui, voire de fomenter des coups d'État dans le cas de régimes socialistes qui ont été élus par le peuple, etc.
C'est une vieille histoire.
C'est ce que dit plus ou moins d'ailleurs dans son article Christophe Ventura, en Amérique latine, le non-alignement au service de la paix.
Continuez, j'ai pas bien compris.
C'est ? Comment ?
Continuez, j'ai pas bien compris.
Ah oui,
les États-Unis avaient eu de... Ah, ça, je savais pas.
Avait une importance en Amérique latine.
Oui.
Mais oui. Bon, on te l'apprend avec plaisir, d'ailleurs.
L'épisode de Cuba, ça te dit rien.
Ça te dit rien.
Alain. Si. Non, mais c'est bien. Alain intervient. Il est intervenant et apprenant dans cette émission. C'est bien. Et nous le sommes tous, d'ailleurs. Et au niveau de l'Amérique du Sud, si je peux continuer, eh bien, du fait de conflits, notamment ukrainiens, les liens se sont un peu resserrés avec la Russie, parce que dans pas mal de secteurs, on s'est dit, tiens, il y a peut-être des partenariats à nouer au niveau des infrastructures, de l'exploitation minière, de l'énergie. Dans le domaine militaire, le Venezuela, Cuba et Nicaragua sont des partenaires importants pour Moscou et vice-versa. Et puis, les relations avec le Brésil ont vraiment décollé avec l'organisation de la BRICS, ce regroupement de pays qui vient un peu en contrepoint d'une part des États-Unis, mais aussi de l'Union européenne. Donc, ce qui fait que quand il est question du conflit russo-ukrainien, les pays d'Amérique du Sud, certes, le dénoncent, mais on ne veulent pas se couper vis-à-vis de la Russie parce qu'ils ont besoin les uns des autres. Et puis, dans la balance, c'est vrai que l'Ukraine ne pèse pas très lourd, nous dit Christophe Ventura, même si... l'Ukraine a toujours été, par exemple, en faveur d'une levée de l'embargo qui pèse plus ou moins lourdement sur Cuba depuis 1962. Donc, ils prennent soin de ne pas condamner le conflit tout en ne votant pas les sanctions qui seraient prises contre Moscou. Et Lula a donc proposé qu'il soit instauré un groupe de la paix pour préparer la paix entre les États-Unis, entre Moscou et l'Ukraine. Et donc... pour l'instant, les pays européens et les USA rejettent plutôt cette solution parce qu'ils trouvent que Lula est un peu naïf sur ce coup-là. Et puis, ils le sentent trop proche de la Russie. Et puis, c'est quelque part, c'est court-circuiter l'ONU qui, effectivement, par contre, on reproche de trop être dans le sens des États-Unis et du monde occidental en général.
En tout cas, on a vu Lula, il était très actif lors du couronnement de Charles. Il a rencontré plein de chefs d'État européens notamment, donc voilà, il a quand même une petite place, mais évidemment comme je suis d'accord avec toi, je suis pas sûr que ça réussisse quand même.
Alors cet article de Christophe Ventura est très bien complété par un autre article sur la même double page dans ce diplôme du mois de mai. C'est l'article de Luis Alberto Regada, le rêve progressiste est libre-échangiste de la gauche latine. Mmh. Donc effectivement, ces pays, en 1904, des principaux pays de l'Amérique latine, donc le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay, ont signé le traité d'Asunción pour donner naissance donc, à un marché commun. Après, ils ont voulu donner un tour plus politique avec l'arrivée des présidents Lula et Nestor Kirchner, premier mandat de Lula en 2003. Ils ont voulu donner au Mercosur un élan plus, un aspect plus politique. Mais évidemment, cette vague de gauche, et c'est peut-être que là, Alain, tu vas apprendre aussi que les États-Unis, ça ne leur plaisait pas beaucoup. Et donc, ils ont essayé de casser l'accord. Et d'abord, surtout quand
L'Europe non plus. Hein.
Le Venezuela, ouais. d'Hugo Chavez,
ouais,
oh mon Dieu, quelle horreur,
oh là là.
En est devenu le cinquième membre en 2006. Donc, Washington, évidemment, préférait que cet accord-là reste un accord purement économique, d'échange, et non pas politique. Ouais. Voilà, c'était aussi l'occasion pour ces pays d'Amérique du Sud de prendre un peu ces distances avec l'Europe, à qui on reproche surtout un désaccord qui serait « cars for cause », nous dit l'auteur, c'est-à-dire des voitures contre des vaches. Alors, il faut espérer que ce Mercosur se développe et puis peut-être apporte plus de solidarité, plus d'autonomie au sein de ces pays-là. Voilà pour l'Amérique du Sud. Alors, plusieurs articles très intéressants dans ce diplo, et encore une fois, je me répète, mais je ne peux pas tous les citer. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article de Thierry Brésillon, « Indésirable subsaharien en Tunisie », qui explique très bien que la Tunisie, en fait, c'est notre frontière sud. Pour l'Europe, hein, c'est la frontière sud. Et on demande donc aux Tunisiens de bloquer tous les migrants. Et le président actuel de Tunisie joue vraiment bien le jeu, puisqu'il a repris une théorie vraiment nauséabonde sur le grand remplacement, comme si les subsahariens allaient supplanter les Tunisiens de souche et envahir le pays. Là aussi, on connaît toutes les grosses ficelles. On nous dit qu'il y a 700 000 subsahariens qui sont en Tunisie, alors que l'institut de l'INSEE local, on va dire, les statistiques locales disent qu'il y en aurait plutôt que 200 000. Mais effectivement, la Tunisie est un pays de transit entre l'Afrique et l'Europe, et les côtes tunisiennes ne sont pas très loin de l'île italienne de Lampedusa, et c'est sûr que c'est un point de passage avec des passeurs organisés, des espèces de mafias organisées. Et donc la traversée de la Méditerranée est l'objectif numéro un de tous ces migrants. Et ils passent par la ville de Sfax en général. Et ils essaient évidemment d'atteindre au plus vite les côtes européennes. Alors, le président Saïed a bien compris qu'il pouvait toucher des subsides importants de la part de l'Europe s'il jouait bien son rôle pour repousser tous ces migrants le plus loin possible de son pays et encore plus loin de l'Europe. Voilà un article très intéressant à ce sujet. Il y a encore une fois, beaucoup d'articles dans ce diplo. J'en ai lu un avec beaucoup d'intérêt également. C'est l'Odyssée fatale des chemins de fer grecs de Elisa Périgueur, qui revient sur ce dramatique accident ferroviaire en Grèce le 28 février 2023, cette année donc, il y a peu, qui a fait 57 morts et au moins 85 blessés, et qui explique comment le service ferroviaire, la SNCF locale, on va dire, est tombé.
Un engrenage dramatique.
C'est vraiment dramatique. Du coup, et depuis des années, hein, c'est pas la faute qu'au dernier gouvernement qui bien est sûr, en Grèce. Bien sûr, bien sûr. C'est que depuis tout le temps, ils ont négligé le ferroviaire au profit de la route, comme dans beaucoup, hein, ça n'arrive pas que chez eux. Il y avait un film de Ken Loach donc, qui était sur les aboyeurs en Angleterre.
En Angleterre, oui, quand ils ont privatisé.
Qui était très important. Et c'est un peu le même phénomène qu'on observe là-bas. Mmh. C'est-à-dire qu'on on donne très peu d'argent aux ferroviaires, on favorise la route. Et alors, depuis 2014, pourtant, l'Union européenne a alloué 805 millions d'euros pour la modernisation du réseau. Mais bon, ce réseau, il a du mal à être rénové. Et souvent, les services publics grecs sont souvent complètement démantelés, donc y compris en matière ferroviaire, comme nous le dit Elisa Périgueur.
Une des choses les plus dramatiques dans cet accident, c'est que le directeur de cette gare n'avait aucune compétence.
Il avait été formé en quelques jours.
En quelques jours.
Il a dit « t'appuie là » et il a reconnu qu'il s'était trompé.
C'est ça. Vas-y, appuie là.
Et derrière, ah, 57 morts. Merde. Voilà. Pourvu que Trump revienne pas au pouvoir et n'appuie pas sur le mauvais bouton à son tour.
Pourvu qu'on passe aussi notre tour sur les ultralibéraux qui ne reviennent pas au pouvoir, pardon.
Voilà, donc je ne citerai pas. Je ne citerai pas. Il y a des provocations.
L'allusion à Trump, je n'ai pas bien compris, il n'est pas grec, lui.
Non, c'est l'histoire du bouton.
C'est le bouton.
Je suis toujours inquiet qu'un gars comme ça puisse appuyer sur le bouton.
Sur un bouton, sur n'importe lequel.
Voilà, ça m'inquiète toujours un peu. Ouais. Donc, dans ce diplôme, beaucoup d'articles, un article sur la City à Londres, un article sur l'Arménie. Mais encore une fois, je ne peux pas tous les citer. Je vais laisser volontiers la parole à ces messieurs qui vont nous parler de leur choix.
Victor, dans quelques minutes, après un peu de musique avec Victor. Alors, vous allez voir, moi je découvre. Je découvre vraiment, c'est toi qui m'en as parlé tout à l'heure, Henri, de cette voix danoise. Et vous allez voir, écoutez bien, il y a du Nina Simone dans cette voix. Elle s'appelle Nana Rachid.
Elle joue avec un groupe du Nord aussi.
Absolument, un groupe plus connu déjà, qui s'appelle Little North. Voici pour Blue Betty, pour démarrer à bâton rompu en musique. 7 jusqu'à 20h, restez avec nous.
Poor Blue Betty, I didn't wanna write this song. Cause poor Blue Betty, to me you're all wrong. Poor Blue Betty, I just wanted to be strong. Poor Blue Betty, don't make me wait so long, 'cause I want you more than I'd admit, and I need you in every single way, and I want you. Everything I sing is yours. I'm yours, I'm yours. Song. The one that's telling tales when everything is one. And poor Blue Betty, you taught me how to sing along. I want you, 'cause everything I sing is yours. I'm yours, I'm yours.
L'album s'appelle Music Betty. For Betty. Premier album, hein, je vous disais, de cette chanteuse qui rappelle Nina Simone. À l'instant, c'était Nana Rachid sur Radio Campus Orléans. et dans À bâton rompu.
À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Des médecins sont-ils au service des employeurs? C'est une question, Victor.
Oui,
alors,
oui.
Il y a une chose que j'apprends à la lecture de cet article, c'est que depuis 2017, les entreprises ont la possibilité.
Depuis 2007.
Depuis 2007, pardon, pas 17. Mais je ne savais pas que les entreprises avaient le droit de contester, la possibilité de contester auprès de l'ordre des médecins les certificats médicaux.
Qui font un lien entre travail et santé mentale.
Mais oui, c'est ça. Je ne savais pas.
Oui, moi non plus.
Et en tout cas, l'article parle de cette dame, Madame Karine Djemil, qui est médecin du travail, qui a connu bien des soucis. Raconte-nous.
Oui. Justement, donc le docteur Djemil, en fait, avait établi un lien entre des tentatives de suicide de la part de deux salariés et un traitement lié au harcèlement moral et sexuel au sein de son entreprise. Donc, du coup, elle a fait le lien entre ces deux événements-là. Et il y a eu une contestation par son employeur, enfin par les employeurs. Contestation devant l'ordre. Et on a reproché à Madame Djemil, son rapport tendancieux. Et elle a été condamnée à 3 mois d'interdiction d'exercer son métier en deuxième instance, en seconde instance.
Dingue.
Ouais. Pour avoir voulu secourir des salariés.
Oui, c'est ça. Mais je connaissais pas l'histoire. Mais en tout cas, il y a eu pas mal de. Tu vas nous le dire aussi. Il y a eu pas mal de soutien de la part de ses collègues. J'ai passé du temps à regarder les blogs, de médecins. Elle a été soutenue,
oui. Oui, par les autres médecins du travail, énormément. Enfin, contre l'avis de l'ordre des médecins, qui du coup est quand même assez partial. Mais comme le souligne le magazine L'Explicite, qui apparemment est un magazine internet qui parle du droit des affaires, il déclare qu'en fait cette loi a été un véritable levier au service de la défense de l'employeur. Et les plaintes des employeurs ont augmenté. On était à 6,5% de contestations en 2011 et on est à 13,5% en 2015. Des contestations du coup de certificats médicaux qui établissent un lien entre santé mentale et travail. Voilà. Tout ça apparaît dans un contexte général qui est quand même hostile à la médecine du travail en général. Il y a eu la loi travail de 2016 qui a décalé les visites médicales obligatoires tous les 2 ans avant à tous les 5 ans. Depuis 2018, la visite d'embauche devient une simple visite d'information et de prévention. Et depuis 2010, on a perdu 20% d'effectifs de médecins du travail en moins. Du coup, sur l'ensemble du territoire français, donc c'est quand même... La médecine du travail ne se porte pas très très bien en ce moment.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Et avec les réformes successives néolibérales, forcément, on va pas dans le sens d'une plus grande protection des employés.
Ah ben tout dernièrement, je crois que c'est les CHSST.
Les CHSST ont sauté. C'est...
Dingue.
Il fait pas bon vivre être employé en cette période, apparemment. Surtout que l'ordre, en fait, ignore complètement la parole des salariés lorsqu'une procédure est engagée. Alors, avant la procédure disciplinaire, il y a ce qu'on appelle une procédure de conciliation, mais qui en fait est extrêmement bancale parce que du coup, lors de la procédure de conciliation, donc c'est l'employeur, les représentants de l'employeur et le médecin qui sont confrontés avec l'ordre. Et en fait, le médecin ne peut malheureusement pas parler des détails de la vie qui sont affectés par le travail, parce que sinon, il romprait le secret médical. Donc du coup, ils sont un petit peu coincés à cette période de conciliation. Lorsqu'il y a procédure disciplinaire, en fait, la voix du patient n'est absolument pas entendue. Le patient n'est même pas interrogé lors de contestation par l'employeur, n'est pas interrogé par l'ordre des médecins. C'est juste le médecin qui fait l'objet d'une procédure. Les pressions de l'ordre font que nombre de médecins ne veulent plus faire de certificats médicaux, même quand bien même ils sont justifiés. Et comme en plus il n'y a presque pas d'instruction lors de ces procédures disciplinaires, en fait c'est avantageux pour l'employeur par rapport à faire une contestation au prud'homme ou une contestation au pénal pour diffamation, auquel cas il y a effectivement une procédure qui est mise en place avec un juge d'instruction qui va effectivement vérifier le truc, etc., et vérifier la véracité des propos et la souffrance au travail que peut ressentir l'employé qui a été désigné. Voilà, donc tout ça est fait pour décourager les médecins et les patients de faire le lien entre maladie et travail. Et c'est un petit peu dommage, je trouve, dans une période où effectivement le travail a tendance à devenir de plus en plus difficile.
Quand on se casse un bras ou une jambe au travail, on voit.
Oui.
Mais le mental, comment et comment ces entreprises et l'ordre des médecins peut définir que la personne est en train de mentir. Enfin, c'est, quand j'ai lu l'article, j'ai lu deux fois d'ailleurs pour comprendre, parce qu'il y a des tas de choses que j'ignorais, mais je suis en colère. Quoi.
Ah bah oui, complètement. Surtout qu'en plus, je veux dire, si l'ordre de médecin est prêt à retirer le droit d'exercer à quelqu'un qui a effectivement identifié qu'il y avait un lien entre travail et tentative de suicide, c'est quand même sérieux, quoi. C'est pas j'ai un coup de mou parce que je vais au travail, du coup je te fais un arrêt de 6 mois.
C'est ça,
quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est quand même assez violent, quoi. Mais ouais, effectivement, ça n'augure rien de bon.
Oui, mais vraiment, vraiment. Alain, oui.
Non, mais je conteste pas ce qui est dit sur l'article, bien sûr. Mais en tant que salarié, je suis allé à des visites,
oui.
Médecin du travail. Bon, les visites, ça se passe comment? Il y a une secrétaire du médecin du travail qui nous reçoit, qui pose des questions habituelles et qui regarde les yeux, qui regarde la taille et qui dit tirer la langue. Et bon, voilà, qui pose les questions, basiques. Mais après, le médecin du travail, il a très peu de temps à consacrer à chaque salarié. En gros, 10 minutes, quoi. Ça va bien. Bon, il pose des questions effectivement par rapport à son environnement, par rapport à la qualité de son poste de travail, au confort. Mais c'est très rapide. Alors, ce que je dis, c'est qu'un médecin du travail, je ne vois pas comment il pourrait juger justement de l'effet mental du poste de travail par rapport à la personne.
Mais c'est le patient qui peut le dire.
Le patient, il dit ce qu'il veut.
Oui, on est d'accord.
C'est ça. Et le médecin, quelle est son expertise derrière?
Il a des compétences pour ça, non?
Non.
Ah, d'accord.
Bon. Non. Victor, ils ont des compétences sur le physique. Et beaucoup, notamment les médecins du travail, ils n'ont pas les compétences sur le psychique. Oui, c'est ça, sûr, le problème. Donc, si tu veux, il y a une discussion qui peut s'engager et une réflexion aussi. Je dis pas que c'est faux.
Ah oui, non, mais je comprends ce que tu veux
dire. Mais voilà, je me permets de douter. C'est pas toujours le patient qui dit la vérité et le médecin du travail qui peut aller que dans le sens de ce qu'on lui dit, parce qu'il pose des questions effectivement au salarié qui lui dit je suis mal, par exemple, je subis la pression de mon chef ou de mes chefs, de mes supérieurs. Et j'ai même des agressions sexuelles. Mais là, ça relève d'une enquête de police. C'est pas un médecin du travail qui est apte à dire « Ah bah oui, c'est vrai !» C'est ça que je veux dire.
Victor ?
Oui, la contestation aussi, ça concerne aussi les médecins généralistes, en fait, qui font des arrêts...
C'est différent.
Qui font des arrêts de travail, justement, par rapport à des phénomènes de souffrance au travail. Donc, c'est pas que la médecine du travail. Et ensuite... c'est tout.
ce que je voulais dire, c'est qu'actuellement, dans le Loiret...
Ça prête à réflexion et à discussion.
Absolument.
L'article est intéressant. Oui. Maintenant, ça prête à réflexion et à discussion. C'est ça que je veux dire.
Actuellement, il manque tellement de médecins dans le Loiret. On est si mal placés à tous les niveaux, et y compris pour la médecine du travail, puisque très souvent, l'entretien médical, ce qui n'empêche pas que ce soit intéressant à faire, mais il est fait avec une infirmière. Et on ne voit un médecin que dans les cas, je pense, les plus importants, les plus graves.
On est mal. Hein. Enfin, bref, voilà. En tout cas, article de Selim Dierkaoui, l'occasion de saluer l'ami Selim, qui est journaliste indépendant et qui écrit pour le diplôme. Il était cofondateur d'un magazine indépendant que vous trouvez sur les réseaux sociaux qui s'appelle Frustration. Allez voir ce qu'ils font. C'est un groupe de jeunes journalistes et qui sont très, très forts en matière d'enquête. À lire, donc. Merci, Victor, pour
merci
la restitution
toi,
de cet article. Des médecins au service des employeurs, c'est une question. Et un ordre professionnel contesté, c'est l'ordre professionnel des médecins. On va partir maintenant en Turquie.
Abattons rompus, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Avec un événement dimanche prochain, Henri, je disais un événement l'un des plus importants dans le monde cette année, c'est l'élection présidentielle en Turquie. Recep Tayyip Erdogan risque de perdre la présidence, en tout cas les sondages ne le donnent pas gagnant forcément. Et ce monsieur qui est là depuis quelques années maintenant, on l'appelle le second Atatürk. Je pense que tu vas nous parler un peu de tout ce monde.
Oui, je vais remonter un petit peu dans le temps quand même. D'abord pour expliquer pourquoi la Turquie est un pays si important. Ça n'est pas un pays arabe, je le rappelle. La langue turque vient du fond de l'Asie. Les, les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, pour la plupart, sont turcophones. Alors, ce n'est pas le turc d'Istanbul, mais c'est du turc compréhensible par des gens d'Istanbul. Et ces peuples turcs, on les retrouve jusque dans l'ouest de la Chine, les fameux Ouïghours qui ont tant de problèmes avec le gouvernement de M. Xi Jinping.
Ils sont turcophones.
Ce sont des turcophones.
D'accord.
Donc, c'est quand même très important de jeter un coup d'œil sur le monde turc, parce que déjà, il a un regard tourné vers l'Asie.
C'est ça.
Et ça va jusqu'à l'Extrême-Orient. D'autre part, sur le plan historique, on ne doit pas oublier que l'Empire ottoman, bon, qui a été immense, bon, qui a été fondé par des gens qui venaient du fond de l'Asie, les conquérants asiatiques, et l'Empire ottoman a été au XVIe siècle, déjà avant le XVIe siècle, au XVe, la prise de Constantinople marque la fin du Moyen-Âge. Traditionnellement, c'est 1453. Constantinople, la deuxième Rome, l'Empire byzantin, c'était du solide pendant le Moyen-Âge, qui s'écroule sous les coups de boutoir des Turcs. Et les Turcs vont chausser les pantoufles de l'Empire byzantin, se tailler un empire immense qui sera certainement l'une des plus grandes puissances mondiales à l'époque. À l'époque de la Renaissance, même l'empire de Charles Quint ne tient pas la route face aux Ottomans. Il faut quand même se rappeler cela. Et François Ier, qui a maille à partir avec Charles Quint, cherchera l'alliance des Ottomans.
C'est vrai. C'est vrai.
Les Turcs ont été les alliés de la France, donc à une époque lointaine. Et le passé de très grande puissance des Turcs est resté, bien sûr, dans la mémoire collective. Alors, l'Empire ottoman est devenu ce qu'on a appelé l'enfant malade de l'Europe. Bon, c'est vrai qu'il s'est affaibli considérablement dans les siècles qui se sont succédés et a fait le mauvais choix au moment de la guerre de 14. Il s'est mis du côté des puissances centrales, c'est-à-dire Empire allemand, Empire austro-hongrois.
Ils ont perdu.
L'Empire ottoman a été dissous par le traité de Versailles. Et ce qui a pu être récupéré du monde turc, donc de l'Anatolie, quand on regarde la carte d'Europe, de Méditerranée orientale, on voit une espèce de rectangle, en gros, qui avance sa tête là, du côté de la mer Méditerranée, c'est la Turquie. Et c'est un certain Mustafa Kemal qui a réuni autour de lui une opinion jeune. C'était un parti politique qu'on appelait les Jeunes Turcs, qui était absolument décidé à ne rien lâcher et à ne pas laisser s'effriter la Turquie. Et il y a eu une guerre contre la Grèce, puisque ce pays était grec à l'époque byzantine, et des populations grecques restaient, la Grèce a perdu. Donc ils ont été évincés. Et la Turquie est devenue aussi purement que possible turc, avec quelques dérapages quand même très regrettables. C'est un doux euphémisme, puisque vers l'est de la Turquie, il y a le Caucase avec les Arméniens. Oui. Et il y a eu un génocide quand même, ça n'est pas un détail.
Non, à part que les Turcs ne reconnaissent pas.
Bien sûr, les Turcs ne reconnaissent pas, mais il y a eu quand même un génocide. Oui. Donc il y a eu une volonté de turquifier la Turquie, si on peut dire. Mais cela dit, Kemal Atatürk a été un grand bonhomme. Il a voulu que la Turquie devienne un pays laïque. Donc, à l'opposé de l'islam rigoriste de l'Empire ottoman. Le sultan ottoman était l'ombre de Dieu sur terre, quand même. C'est pas rien. Et Kemal Atatürk veut purifier la langue turque, qui était bourré de mots venus de la religion musulmane, donc d'origine arabe, éventuellement persane. La langue turque moderne est une langue beaucoup plus pure qu'elle ne l'était à l'époque ottomane. C'était une espèce de sabir à l'époque ottomane avec toutes sortes de mots. Et il a voulu bâtir un pays moderne. Les femmes turques ont eu le droit de voter bien avant les femmes françaises.
Oui, c'est vrai.
Les femmes turques, c'est quand même dans les années 20. Les femmes françaises, c'est sensiblement plus tard, c'est 45 ou 46. Oui,
44, non
44. Bon. Ouais. Ah bon. Les années 40, en tout cas. Bon, il y a bien 20 ans de retard par rapport à la Turquie.
Absolument.
Donc la Turquie veut faire figure de pays moderne. Et depuis l'époque de Kemal Atatürk, Mustafa Kemal va avoir comme surnom Atatürk le père des Turcs.
Le père des Turcs.
Depuis cette époque, la Turquie se pose toujours en pays moderne, sur le plan industriel, sur le plan social, etc., face à l'environnement proche-oriental, en particulier les pays arabes qui sont autour. Et c'est vrai que les Turcs ne rechignent pas à mouiller leur chemise pour transformer le pays à l'époque d'Atatürk. Et le pays donc est laïque. Et la laïcité est garantie par ce qui est toujours la grande force en Turquie, c'est-à-dire l'armée quand même.
C'est ça.
Alors aujourd'hui, l'armée est quand même plus discrète qu'il y a encore une trentaine d'années. Mais il ne faut pas oublier que la dernière dictature militaire, elle va jusqu'au début,
80, hein,
jusqu'au début des années 80.
Absolument. Mais après, Erdogan, a décapité l'armée. Hein. Il y a
eu
la tentative.
Alors, il y a eu une tentative de putsch.
Et,
donc, il y a quelques années. Et depuis, évidemment, il y a eu une épuration sanglante à la tête de l'armée, à la tête aussi d'autres institutions que l'armée, mais essentiellement l'armée.
Tout à fait.
Donc, Erdogan est quelqu'un qui n'aime pas la concurrence. Et il n'aime pas les coups d'État. Donc voilà ce qui est en jeu. N'oublions donc pas que c'est un pays laïque et c'est un pays puissant. Il a une industrie, il a des technologies, il a une armée forte, il a du matériel militaire.
Une position stratégique.
Une position qui a toujours été le point fort des Byzantins, ensuite des Ottomans et maintenant de la Turquie, qui s'est bien gardée de bazarder son petit morceau d'Europe, surtout avec la métropole d'Istanbul quand même. Et cette position stratégique, on en a entendu parler au début de la guerre Russie-Ukraine, puisque des bateaux qui transportaient du blé ukrainien, ont pu transiter par le Bosphore et les Dardanelles.
C'est ça.
Donc le Bosphore, c'est mer Noire, la petite mer intérieure de Marmara, et les Dardanelles, c'est de la mer de Marmara jusqu'à la Méditerranée proprement dite. Donc c'est un pays extrêmement important sur le plan stratégique. Et donc encore une fois, il a un œil vers l'Asie intérieure, les Chinois aussi d'ailleurs, pour d'autres raisons. Et il voudrait jouer le rôle de faiseur de paix au Proche-Orient et voudrait jouer un rôle, disons, de pays important au Proche-Orient, le pays qui est stable, qui est fort, etc. Alors le problème, c'est Erdogan, bien sûr, qui est quand même un homme singulier, enfin à poigne, disons. Et monsieur Erdogan a récemment eu un certain nombre de problèmes. Il n'a échappé à personne qu'il y a eu un violent séisme en Turquie récemment. Très violent séisme. Bon, la Turquie est une terre de séismes. Mais ce séisme-là a vraiment passé, la moyenne des séismes qu'on enregistre d'habitude en Turquie. Ce séisme a fait énormément, a fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Et surtout, des morts par éboulement des immeubles qui avaient été bâtis sous l'égide d'un certain nombre d'entrepreneurs protégés par le gouvernement.
Tout à fait.
Et naturellement, ça pèse très lourd dans le passif d'Erdogan, puisque les électeurs ne peuvent pas oublier ce genre de choses.
Lui-même a mis un peu de temps à venir sur les lieux de, du séisme. Il a mis 2-3 jours. Donc ça.
Oui, voilà. Oui. Mais il ne pouvait pas faire autrement, mais il a traîné les pieds quand même.
Ben, bien sûr.
Donc ça, c'est quelque chose qui ne sera certainement pas oublié. Alors, face à Erdogan, il y a un monsieur qui s'appelle Kemal Kılıçdaroğlu.
Bon. Oh, tu le dis bien, mais je n'ai pas osé tout à l'heure.
Alors, Kılıç, parce que
moi,
ce sont des...
J'avais l'intention de l'appeler Kim.
Oui, c'est ça.
Les deux premières.
Ce sont des I qui ne se prononcent pas I parce qu'il n'y a pas de point dessus.
D'accord.
Donc, c'est une espèce de E.
Bon. En plus, il y a des pièges.
Oui, en plus.
Oui. Ça dit, ce n'est pas une langue si difficile, le turc. Mais bon. Alors, Kılıçdaroğlu a 74 ans. Ce qui est, bon, il a de la bouteille, il a de l'expérience. Il a de l'expérience, effectivement. Pas beaucoup de charisme, mais excellent économiste. Bon, c'est la tradition habituelle des fonctionnaires plutôt à gauche. Il y a cette tradition-là en Turquie depuis fort longtemps, laïque et en même temps nationaliste. Le nationalisme est quelque chose qui se porte bien chez les Turcs. Et il s'est constitué un environnement humain assez impressionnant. Et en particulier, il appartient au Parti républicain du peuple. Et ce Parti républicain du peuple, dont il a pris la tête, est un parti relativement modéré. Tout à fait différent de l'AKP d'Erdogan, qui est un parti tout à fait autoritaire. Donc, il s'est allié également avec il a fondé l'Alliance de la Nation. Ça va de la droite modérée, disons, jusqu'à l'islam politique, en passant par toutes sortes de gens.
Mais c'est ça, cette alliance, elle est assez bizarre.
Contre nature, mais... Oui. Bon, c'est...
Mais ça a l'air de marcher, en plus.
Qui sommes-nous pour en juger ?
Absolument, ils sont à 54% dans les sondages, donc ça a l'air de marcher.
Ça a l'air de marcher. Ouais. Et donc, il a cette coalition qui gravite autour de lui. Et ça marche plutôt. Bon, s'il était élu, est-ce que ça continuerait à marcher ? Ça, c'est une autre histoire.
C'est une autre histoire.
Mais pour l'instant, le premier chapitre, c'est l'élection. C'est dimanche prochain. Les chapitres à suivre, ça sera après.
Absolument.
Et la campagne de Kemal Kılıçdaroğlu est une campagne qui se passe assez bien. Il a entamé une politique de réconciliation avec des tas de gens qui n'étaient pas tout à fait de son bord. Ce qui les unit, c'est plutôt d'être contre Erdogan. Et c'est une alliance de circonstances. Mais bon, ensuite, advienne que pourra. Mais les circonstances, c'est l'élection. Alors, les Turcs pensent quand même... ils sont peut-être fatalistes, que celui qui a le plus de chance, c'est Erdogan.
Oui, c'est... Voilà. Pourquoi ? Ça, c'est une...
Pourquoi ça ? On n'en sait rien. Enfin, si, on en sait un peu quelque chose. Ils vont sans doute... Enfin, beaucoup d'entre eux ne vont pas voter pour Erdogan, mais ils ont l'habitude des tricheries d'Erdogan.
C'est ça.
Et en particulier, la manipulation des scrutins. Donc, c'est pas un très bon signe, disons, pour dimanche prochain. Ceci étant, les scrutins déposés dans les urnes disaient que la victoire est courte pour Kılıçdaroğlu et que c'est Erdogan qui perd, un homme qui se pose comme un gardien de la Constitution peut difficilement réfuter le témoignage des urnes.
Tout à fait.
Donc c'est très important parce que la Turquie, encore une fois, a renoué des relations diplomatiques avec une foule de pays, y compris Israël, par exemple, y compris d'autres pays qui n'étaient pas très chauds. Et c'est effectivement la Turquie, c'est l'homme fort de la région. Et c'est le pays, pour l'instant, le plus stable.
Scrutin donc le 14 mai prochain, à lire dans le Diplo du mois de mai. La démocratie turque en suspens, c'est vraiment très 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 riche et très 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 fourni. Bon, on vous en parlera forcément le mois prochain. Je pense qu'il y aura un autre article de fond selon les résultats. On va suivre ça. Pour terminer cette émission dans deux secondes, on va en Afrique.
Abattant rompu, le magazine de l'actualité alter internationale.
Au Nigeria, Alain, pour parler de ce monsieur, Aliko Dangote, que beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas, évidemment. C'est un homme d'affaires, c'est un magnat. Hein, c'est le gars, il est riche à milliards depuis des années. Il est surtout connu pour être dans le ciment. Ce qui se passe, c'est que pendant longtemps, il a fait tranquillement ses affaires. Et puis maintenant, il y a quand même une partie de la population nigériane, en tout cas l'endroit où il fait ses cimenteries,
qui commence à réagir. Et c'est compréhensible. Simplement, je voulais dire... par rapport à Erdogan, excusez-moi, je reviens un tout petit peu sur le...
Vas-y.
Alors, tu as dit que c'était un homme à forte poigne. Tendance despotisme, voire...
Oui.
Dictatorial, on peut
dire ça comme ça.
Absolument. Ouais,
ouais. Parce que ça, c'est ce qui ressort des interviews que j'ai entendues de la population à propos des élections, justement. Et puis, pour un État... qui se dit, comment tu disais
Démocratique.
Il est laïque.
Il est laïque.
J'ai pas bien compris la transformation de la cathédrale Sainte-Sophie en mosquée.
Oui, ça c'est au moment de la... À l'époque, c'était pas la République laïque. La République laïque date d'Atatürk, donc des années 1920.
D'accord. Non, mais là, c'est une comment dire, c'est très récent, ça, la transformation en mosquée de la cathédrale Sainte-Sophie.
Non. Elle était mosquée dès la prise de Constantinople.
Elle était mosquée avant, par elle était redevenue cathédrale, et ils viennent de la remettre mosquée.
Elle n'est pas exactement redevenue basilique, là. Elle a été transformée en musée.
C'est ça.
Donc, on a laissé en place tout ce qui était musulman, et... Bon, les chrétiens qui veulent aller prier ont bien sûr le droit, mais elle n'est pas exactement redevenue ce qu'elle était avant.
Je l'ai visitée. Cette basilique. Bon, non, mais c'est tout, c'était un aparté. Alors, comme tu dis, on va parler du Nigeria. Et maintenant, on va aller raconter l'histoire de monsieur Aliko Dangote.
Aliko Dangote.
Héros de l'Africapitalisme.
Oui.
D'accord. C'est un article de Jean-Christophe Servant, envoyé spécial du Diplo, un très, très bon article que j'ai trouvé, qui m'a bien plu. Alors, cet article, en premier lieu, je dirais, m'a fortement rappelé un autre article du Diplo que j'avais présenté à une époque, parce qu'il y a beaucoup de similitudes, je trouve. C'était sur la famille Castel, les rois de la bière et d'autres activités en tout genre en Afrique.
Tout à fait.
D'accord. Alors, pourquoi j'ai trouvé ça, j'ai fait ce rapprochement, ça m'est venu immédiatement à l'esprit. Je dirais, la seule différence entre ces deux personnages, donc M. Aliko Dangote et M. Castel, chef de la dynastie du même nom, c'est que le premier est africain et l'autre est français. Mais c'est la seule différence à mes yeux, pour moi. Parce que de nombreuses similitudes se retrouvent. Même sens des affaires. Même capacité à flairer, et surtout les bonnes. Même réussite commerciale, même ascension fulgurante. Ouais. Même fortune réalisée, ou presque. Enfin, je n'ai pas comparé le niveau exact. Mais... Et même méthode utilisée, surtout. C'est-à-dire, parmi ces méthodes, on retrouve les alliances politiques tout azimut. Et un certain mépris des considérations sociales et environnementales.
Carrément.
Voilà. Donc, en cela... On peut dire que ce sont deux personnages quasiment identiques. Alors, qui est M. Dangote? C'est le PDG d'un des plus grands conglomérats du continent africain, qui s'appelle Dangote Cement PLC, donc comme ciment, comme cément, fondé en 1977. Donc, c'est récent pour une société qui a pris une ampleur phénoménale et qui exerce sur pas moins de 10 pays en Afrique. Depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique du Sud, en passant par tout le golfe de Guinée. Le chiffre d'affaires est de 1,8 milliard d'euros par an. On voit que c'est vraiment une très grosse affaire. À 65 ans, c'est la première fortune du continent.
C'est vrai.
136e mondial. Alors ça, c'est Bloomberg, qui est un office qui classe les milliardaires dans le monde, estime qu'il a une fortune d'environ 19 milliards d'euros. Fortune personnelle. Mmh. Alors, activité principale, fabrication et commerce du ciment, mais aussi, il dirige un groupe d'entreprises allant de l'agroalimentaire jusqu'à l'immobilier, en passant par la logistique portuaire, et ça c'est très important,
oui,
en Afrique, dominer la logistique portuaire.
Oh là, oui.
Pour tout ce qui est importation, exportation, maîtriser ça, c'est, comme on disait pour la Turquie, c'est stratégique. Alors, et bientôt le raffinage des produits pétroliers, ça c'est ce qui est annoncé. Il entend faire du secteur privé le premier moteur de développement. Bon, ça... voilà, donc on voit qu'on est dans la privatisation. On va voir pourquoi il y a des manifestations. Son entreprise de ciment est présente actuellement dans 10 pays du continent, du Sénégal à l'Afrique du Sud. En Afrique, le marché du ciment est en perpétuelle extension avec des prix qui augmentent de façon exponentielle. Donc la fortune, évidemment, augmente aussi de façon exponentielle. Au départ, les investissements ont été financés à hauteur de 220 millions de dollars par la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement. Donc c'était un prêt. Alors, comment se fait-il qu'un homme qu'on ne connaissait pas tant que ça a eu un tel prêt de la Banque mondiale?
C'est là où il était malin. Il a démarré sur... Tu as l'expliqué parce que c'est dans l'article.
L'explication de base, c'est par ses acquaintances politiques.
Bien sûr, évidemment.
Il a été couvert par le gouvernement, par l'Angola, par les présidents précédents, ministres, et ainsi de suite.
Et il a présenté ça comme quelque chose qui allait aider au développement du pays. On va arrêter de faire des maisons en banco, là, vous savez, la terre rouge, la terre séchée en Afrique. Ouais. On va faire de la brique. Ouais. Et évidemment, tout de suite, les chefs d'État ont... Les ministres l'ont aidé avec la Banque mondiale, évidemment.
Donc tout le monde l'a suivi.
Ah, mais évidemment. Voilà.
Donc le groupe Dangote exploite aussi les mines de charbon destinées à faire tourner ses cimenteries.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on lui a fait des concessions. Et on va voir. C'est pour ça qu'il y a des gros problèmes maintenant. Avec cet argent, il a pu se payer des mines de calcaire, qui est la base même pour fabriquer du ciment, mais aussi des mines de charbon qui lui servent à faire tourner ses usines, ses cimenteries. Et ça lui a été cédé, vendu, notamment par un des... Comment on peut dire, c'est fédéral. Oui. Par un État fédéral.
Tout à fait.
Parce que c'est une nation fédérale, le Nigeria. Et donc, un des États fédéraux où se trouvaient les mines, lui ont cédé la concession, lui ont vendu.
Tout à fait.
Mais moyennant un montage financier qui, aujourd'hui, n'a pas du tout été respecté. Bon. Parce que l'État fédéral devait garder une partie des parts de l'entreprise. Et maintenant, ils n'en voient pas du tout la couleur. Ben alors,
l'Afrique.
C'est ça.
Je sais pas comment t'expliquer ça autrement, l'Afrique.
Alors, d'une manière générale, ce monsieur... Dangote est un exemple pour les jeunes qui rêvent de devenir cimentier, parce que pour eux, c'est l'exemple de la réussite.
Ah mais je vous le disais, moi quand j'étais jeune, Aliko Dangote, c'est le premier homme d'affaires à avoir eu son avion, qui avait des propriétés partout, donc on avait tous envie de devenir Aliko Dangote.
Pour eux, c'est le héros de l'Afrique capitalisme. Voilà. Alors, je vous laisse le soin par rapport à ça de lire l'article de Jean-Christophe Servant qui vous détaille l'évolution du groupe, de ses activités, de ses relations internes au Nigeria et à l'extérieur, du Nigeria à l'extérieur, mais sur le continent africain, mais également en Europe. L'article détaille les liens tissés par M. Dangote avec les dirigeants politiques actuels et passés, les financements des campagnes électorales, parce qu'on parle de ça, bien sûr, des différents présidents et ministres au Nigeria. Et quels que soient les gouvernements, il a toujours mis la main à la poche pour financer les campagnes. D'où ses accointances politiques.
Et même en Europe, hein, il a été reçu à Versailles.
Ouais,
il y a une soirée c'est pour ça. Lui.
À l'Élysée,
à Versailles derrière, mais croyez-moi.
Bon.
C'est un monsieur qui compte.
Mais en cela, c'est comparable avec l'Empire Castel.
Nous sommes d'accord.
Qui a fait les mêmes choses. Lui, il a commencé en étant ami avec un des ministres du Centrafrique, je crois.
C'est ça.
Voilà. Et là. Alors, il y a l'envers du décor. Parce que tout ça, c'est très beau. Parce que finalement, c'est quand même une personne intelligente, travailleuse, qui a le sens des affaires, qui fait travailler pas loin de 20 000 personnes dans ses entreprises. Et on ne peut pas reprocher à un Africain de vouloir monter une grosse entreprise à la mode des pays occidentaux, à la mode des Américains, à la mode... Bon, parce que on leur reproche assez de ne rien faire, et là, on a un homme d'affaires qui fait quelque chose. Bon. Ça, c'est le côté positif, je dirais. Maintenant, il y a l'envers du décor. Alors, l'envers du décor, contrairement à ce que dit l'entreprise, l'activité d'extraction de calcaire et de sa transformation en ciment n'est pas sans conséquences environnementales. Parce que lui, il dit que Il prend toutes les précautions nécessaires. Mais on en connaît des entreprises. Elles disent tout ça. Dès qu'il y a exploitation de minière, généralement, il y a toujours des gens qui payent aux environs sur une pollution, que ce soit des humains ou la nature. Bon. Alors, c'est pas sans conséquence. Poussière permanente qui recouvre les environs des usines, destruction de la nature, bien sûr. Pollution également pour les habitants proches, qui sont pour la plupart des ouvriers qui travaillent dans ces cimenteries et dans ces mines de charbon. Conditions sanitaires déplorables, voire sujettes à maladies, poussière, eau des puits non buvables ou polluées, logements insalubres rappelant les townships. Au début de l'article, il y a une description d'une situation qui montre une belle usine, bien éclairée, jour et nuit, qui travaille très bien. Et puis juste à côté, des gens qui vivent dans des bidonvilles, dans des townships, et qui vivent dans des conditions insalubres, pas possibles, avec des maladies forcément pas reconnues. Alors, idem autour des mines de charbon, pathologies respiratoires et oculaires. Alors, suite à la cession des mines de l'État fédéral de Kogi, alors, c'est l'État dont je parlais, ces mines, c'était un bien public. Avant, c'était des entreprises publiques. Et suite aux belles promesses, à l'argent fourni par la Banque mondiale et celle de l'Union européenne, et ses appuis politiques, ça a été cédé au groupe de M. Dangote et par les responsables politiques du pays. Alors, des affrontements ont eu lieu entre les habitants mêlés à des miliciens de l'État fédéral, c'est-à-dire des forces police public de l'État fédéral, avec les habitants qui sont autour mécontents, qui sont venus manifester devant les cimenteries pour dénoncer le fait que les accords financiers n'ont pas été respectés et donc il y a eu une spoliation de l'État fédéral de Kogi. Mais bien sûr, il y a eu des affrontements qui ont été assez violents contre les milices privées des usines. Finalement, ils ont réussi à bloquer l'activité et le gouvernement central a envoyé l'armée. Ça s'est terminé par des scènes très violentes. Ils ont dû partir.
Énormément de violence. Oui.
Voilà, ils ont dû partir.
Il a embauché aussi des Indiens, des cadres indiens, alors, pour mater les syndicats nigériens.
Alors ça, c'est autre chose. C'est la lutte, je voulais en parler, c'est la lutte pour éviter que les syndicats se développent et l'agissement des syndicalistes. Il s'est basé sur l'exemple en Inde. Inde, une fois, on avait vu aussi qu'il y avait des milices qui combattaient les mouvements syndicaux.
Proche du micro, parce qu'on ne t'entend plus, là.
Oui, voilà. Et les syndicalistes. Ouais. Et donc, lui, il s'est dit, ça, c'est un très bon exemple. Ouais. Et dans ces unités, même à la tête de la partie ciment de l'entreprise, il a mis un PDG indien qui a embauché, ils ont embauché des cadres indiens qui luttent tous contre les mouvements syndicalistes et qui les empêchent de s'exprimer. Voilà. Donc, on va conclure qu'il faut dire que la presse aussi, nationale et international est assez favorable au groupe Dangote, qui le cite en exemple, qui l'invite,
c'est une réussite,
voilà, et qui l'encense régulièrement, bon, y compris la presse française.
Bah oui. Oui, puis et... il est suffisamment malin aussi, ce qui est dit dans cet article de Jean-Christophe Servan, c'est qu'il arrose le pouvoir en place, mais aussi l'opposition.
Aussi l'opposition. Il
donc
est aussi...
comme ça, tout le monde voilà. lui doit quelque chose.
Il met de l'argent à tout le monde.
C'est et basique, puis... mais c'est ouais. très futé.
Et puis au début, en fait, il est venu...
Vous imaginez ça en France, le jour où Mélenchon se fera financer par Bolloré?
il vient d'une
je crois que les deux ne s'en remettraient pas.
Il vient d'une famille commerçante. En fait, son arrière-grand-père était une des premières fortunes d'Afrique à une époque, dans l'époque coloniale, parce qu'il était dans l'arachide, je crois que c'était dit.
Oui, c'est ça. C'était le roi de l'arachide dans un des États fédéraux du Nord.
Absolument. Et bah, du coup, là-bas, en Afrique, c'est comme ça que ça se passe. C'est le destin. C'est-à-dire qu'on dit qu'il était fait pour ça. Donc au début, personne n'en parlait. Et là, au fur et à mesure, on voit bien les dégâts environnementaux qu'il fait. Les gens voient que leurs enfants sont mal en point. Donc là, ça commence à bouger. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il sort l'armée parce qu'il est copain avec le président, le chef du gouvernorat, et il met des Indiens pour mater les syndicats. Aliko Dangote.